Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans La Tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Les amis, avant de vous présenter ce super podcast, je voudrais remercier notre partenaire du jour, c'est BNP Paribas, banque privée. Pour rappel, aujourd'hui, 25% des startups échouent dès les deux premières années de leur existence, et c'est jusqu'à 50% au bout de 5 ans. Et justement, BNP Paribas, banque privée, a lancé plusieurs initiatives afin de les aider à consolider leur réseau et à adopter dès le début les meilleurs choix patrimoniaux. Le groupe BNP Paribas accompagne aujourd'hui un tiers des PME et deux tiers des ETI françaises, mais aussi 85% du Next 40 et 78% de la French Tech 120. Vous pouvez demander un rendez-vous avec un banquier privé sur leur site internet, rubrique « Prendre rendez-vous ». N'hésitez pas également à les suivre sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram @partnerinbusiness, tout attaché. Encore merci à BNP Paribas Banque Privée de nous faire confiance et de nous permettre de vous proposer ce podcast. Bonne écoute à tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. La résilience paye, c'est ce avec quoi j'avais envie de commencer. Un de mes deux invités que j'ai beaucoup harcelé, l'autre que je connais d'ailleurs depuis longtemps, je te le dis en tout cas, je connaissais ta boîte, Étienne. Okay. Bon, comment ça va les gars?
Ça va super bien.
On est où là d'ailleurs qu'on mentionne ce magnifique lieu?
On est à Blanche. Du coup, qui est une salle de sport premium, mais qui a aussi un restaurant. Et là, on est dans un cinéma. Donc,
magnifique. Découvre. Bon, mais merci à eux de nous prêter leurs locaux. J'ai bien envie de commencer par un concept volé de notre cher Yann Barthès. Je te regarde, toi, Étienne, en premier. Est-ce que tu peux présenter ton pote, ton associé, I don't know?
Ouais, bien sûr. Je vais présenter du coup Axel, 31 ans, joueur de basket professionnel, international français et champion NBA, mais surtout aussi entrepreneur du coup et investisseur, mais entrepreneur parce qu'on a cofondé Demos du coup, un club d'investissement ensemble.
Et pote. Voilà.
Et pote aussi, meilleur ami depuis plus de 15 ans maintenant.
Meilleur ami?
Exactement.
Donc vous recommandez de faire du business entre meilleurs potes?
Why not?
S'il y a des thunes, ça va. Tant qu'il n'y a pas de galère. Bon, je te pose la même question, Axel, mais est-ce que tu peux présenter Étienne?
Ouais, alors Étienne Boutan, 32 ans, fraîchement 32 ans.
Tu vas les avoir?
Je vais les avoir en janvier.
Happy birthday.
Merci.
Happy late birthday.
Co-fondateur de X Technologies et co-fondateur de Demos, club d'investissement. Ancien basketteur pro.
Talentueux,
exactement. Il a voyagé dans le monde entier et bon, on se connaît depuis le centre de formation, depuis qu'on a 15 ans à Pau. Pour la petite histoire, Étienne a commencé l'année en première S. Moi, j'étais en première ES et au bout d'une semaine, il a dit
Je
peux pas laisser Axel comme ça, je vais en S.
Putain, j'ai fait S et franchement, de ce que je vois de la physique, les maths, j'utilise rien du tout aujourd'hui.
Non, c'était même pas les cours, c'était juste s'il voulait qu'on se
Il y avait un petit peu les cours, mais il y avait aussi un peu de la rigolade aussi.
Du coup, Pau, c'était quoi, centre de formation et c'était plus juste c'est quoi, cours le matin et sport l'après-midi?
Cours quasiment toute la journée, entraînement le soir et des fois entraînement entre midi et deux. Nous, on allait souvent entre midi et deux ou tôt le matin pour faire quelques extras.
Mais
on avait des horaires aménagés du coup.
Ok.
Mais sinon, c'est des cours assez classiques. Ouais.
Bon, avant d'entrer dans ce podcast, la tête la première. Deuxième question. Étienne, qu'est-ce que t'admires chez Axel?
Pas mal de trucs, surtout comme j'étais un ancien joueur de basket pro.
Par la bagouze.
la carrière qu'il a faite, c'est vraiment impressionnant et j'admire beaucoup ça de l'extérieur. Il a une expérience en tant que joueur de basket qui est hyper rare. Il n'a pas forcément fait les choix où il pouvait prendre le plus d'argent par exemple, mais il a toujours choisi l'expérience. Et que ce soit son parcours en Euroleague, en équipe de France, en NBA et maintenant ici en France, c'est vraiment admirable. Ouais.
Je te titille un peu et je pose la question à Étienne, mais t'as compris son choix de revenir en France après la NBA, après son titre?
Ouais, carrément, je pense que c'était un choix qui était aligné avec ce qu'il essaye de faire dans sa vie sur les prochaines années. Il a vécu beaucoup de trucs, je pense qu'il voulait des nouvelles expériences et se rapprocher notamment famille, amis, développer ses business notamment. Donc de l'intérieur, en tout cas, c'était un choix qui faisait du sens. Ouais.
Un amour pour la France ?
Pour Paris, bah, plus particulièrement.
Pour Paname ?
Et pour la France, bien sûr. Hein.
Ok, mmh. D'accord. Bon, bah, du coup, je te repose la question, Axel. Mais qu'est-ce qui t'impressionne ? Qu'est-ce que tu admires chez notre cher Étienne ?
Moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est son éthique de travail.
Okay.
Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est aussi proches. C'est quelque chose qu'il avait déjà dans le basket et qu'il a réussi à très très bien utiliser pour transitionner. Donc la deuxième chose que j'admire chez lui, c'est la manière dont il a transitionné du monde professionnel de basket à l'entrepreneuriat. C'était un très très bon élève aussi. Toujours.
T'étais bon
en cours ? Ouais, toujours dans les premiers de la classe et majeur de promo à la fac à Monaco. Donc ça, c'est super achievement. Et après, je dirais aussi que bah, c'est quelqu'un qui a peur de rien. Quand il joue au basket, il n'hésitait pas justement à prendre son sac et aller faire des détections. À l'époque, c'était dans toute l'Espagne.
Okay.
Il était parti avec un sac à dos pour faire 6, 7, 8 clubs et faire des détections là-bas.
Tu voyais comment, toi, ça ? Parce que vous étiez dans le même bain, au final.
Ouais, exactement. Moi, j'étais dans une situation un peu plus confortable à Strasbourg. Et bah, je trouvais ça incroyable, en fait, de se dire que... Enfin, de voir surtout que... prenait son destin en main et que partait avec un sac à dos à la conquête de l'Espagne et qui derrière a débouché sur des super expériences et opportunités pour lui. Donc c'est trois choses que j'admire le plus, je dirais.
Tu kiffes?
Je kiffe à fond, ouais.
Je vois tes écoutes comme ça. Non, mais, incroyable, je savais pas tout ça. Mais c'est le but de cette interview. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais c'est beaucoup d'impro, malgré qu'il y ait quelques bullet points. On va avoir plein d'éléments qu'on n'a pas préparés. Et du coup, revenir un petit peu sur votre rencontre. Donc, on a capté, vous étiez potes dès le départ. Pourtant, en fait, j'ai un peu ce truc de dire... D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes mariés ou pas du tout.
Non.
Ok. Bah, je vous le souhaite, mais bon, moi non plus. Hein. De toute façon... Non, non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on dit s'associer avec quelqu'un, c'est hyper touchy, c'est comme un mariage. Sauf que dans le mariage, il y a des émotions. Et là, je me dis, les émotions peuvent te faire perdre la tête. Mais l'entrepreneuriat, c'est fou l'émotion aussi. À quel moment tu te dis, je vais faire ça avec mon meilleur pote ? Est-ce que c'est vraiment... est-ce que vous avez déjà entendu les gens qui vous ont dit, on ne fait pas de business avec ses potes ou la famille ? Et au contraire, vous, vous avez pris le truc inverse en se disant, non, non, c'est qu'avec les gens que je connais. Voilà, là, je pose la question à vous deux. Je ne sais pas qui,
ouais,
qui est inspiré pour répondre.
Je vais peut-être répondre parce que j'ai drivé pas mal d'initiatives. Nous, on a pris nos précautions. On a commencé vraiment petit à petit. Donc, on a commencé avec l'amitié. On était proches par le basket. Mais du coup, Axel, c'était le premier investisseur dans la boîte que j'ai cofondée, X-Technologies. Et ensuite, quand on a vu que ça marchait bien, on a fait nos gammes. Et là, on est allé sur un projet comme Demos où on était associé avec une intensité qui était plus grosse.
Okay.
Et en fait, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on fait monter l'intensité avec le temps. Et on s'assure de bien comprendre comment l'un l'autre travaille. On est hyper complémentaires d'un point de vue personnalité comme ce qu'on apporte sur la table et ça marche super bien pour nous. Et après, on est plutôt doué à communiquer, donc quand il y a des choses qui vont pas, on se le dit et ça, okay, c'est le plus important.
T'as beaucoup d'éléments, mais déjà sur la personnalité, après on va parler de communication, c'est un vrai art, je trouve, qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Et malgré que je fasse des podcasts, moi à chaque fois qu'il faut que je lève la main, bon, plus maintenant mais il y a encore quelques années, je bégayais, j'avais mon cœur qui battait. Mais déjà juste sur la personnalité, ouais, tu peux étayer ces propos. Et c'est quoi ta personnalité, Axel? C'est quoi celle d'Étienne? Est-ce que je peux deviner ou pas?
Tu peux, vas-y.
J'ai l'impression que Étienne va aller parler à plein de personnes et que toi, t'es plus réservé et t'es plus calme aussi. Mais peut-être que je me trompe.
Non, je dirais pas ça. Je pense que c'est plus... je peux paraître comme ça de l'extérieur, mais je le suis pas forcément. Après, bon, sa personnalité, j'en ai parlé pas mal dans sa description. Après, pour revenir à ta question, je pense que les choses sont faites assez naturellement.
Okay.
Je pense pas qu'il y ait de réponse prédéfinie sur est-ce qu'il faut faire du business avec tes amis ou pas. Je pense qu'il y a des cas dans lesquels ça a très bien marché, d'autres dans lesquels ça a pas marché. Mais le plus important, un peu comme disait Étienne, c'est d'être aligné avec soi-même, d'être, de communiquer. Ça, c'est très très important. Ça peut éviter beaucoup de problèmes et désamorcer pas mal de bombes. Et après, je pense que bah, quand tu as une amitié, une proximité avec une personne comme on peut l'avoir, ça a quand même beaucoup de bienfaits et ça peut t'aider à aller beaucoup plus loin.
Donnez-moi un exemple où la communication a été, je sais pas si c'est mise à rude épreuve ou au contraire a été hyper importante. Tu vois, est-ce qu'il y a eu un déclic? Ça peut même être d'un point de vue perso. Mm-hmm. Vous aidez aussi sur le basket à l'époque, mais ouais, dites-moi.
Ouais, je pense en tout cas sur le, par exemple sur la première boîte du coup qu'on a montée avec X. Axel découvrait beaucoup ce monde et du coup il y avait beaucoup d'éducation à faire. Et pour être honnête, les débuts quand on a lancé la startup, c'était assez compliqué. Et du coup,
tu veux nous repitcher X?
Ouais, bien sûr. X, du coup, c'est une startup qui fait de la gestion de données. On permettait à des entreprises qui développaient des systèmes autonomes ou des intelligences artificielles de trier et classer leurs données.
Okay.
Donc assez abstrait, notamment quand on vient du monde du basket. Et du coup, quand on a commencé, Axel, qui était un des premiers investisseurs, l'idée, c'était de lui reporter en fait comment la boîte a avancé. On est quand même une boîte où on n'a pas fait de revenus pendant peut-être un an et demi. Et donc, avancer dans le brouillard comme ça, c'est un processus hyper entrepreneurial qui est peut-être difficile à appréhender. Et donc, il y avait tout ce processus, en tout cas, d'éducation à faire pour que Axel comprenne l'environnement dans lequel on était, comment on avançait et que du coup, qu'on ne mette pas notre relation avec tension parce que, par exemple, j'ai investi de l'argent, j'estime que j'aimerais avoir potentiellement un retour sur investissement dans X, Y années. Et donc, par rapport à ça, il fallait être hyper clair.
C'est toi, tu étais opérationnel et toi, Axel, tu as investi, c'est ça?
Ouais, j'étais le premier investisseur.
Et c'était ton premier invest à toi?
Ouais, exactement. Enfin, invest tech, quoi.
Bah, ok, tu avais déjà fait d'autres invests avant?
J'avais fait un peu d'IMO en début de carrière et là, c'était le premier invest dans une startup.
Ouais. Tu as pris le risque un peu tôt, non? Quand je dis tôt, c'est en général, on te dit que c'est moins de 10% de ton patrimoine que tu dois mettre dans cet actif très risqué, mm-hmm. et le reste dans la pierre, dans les stock markets. Tu t'es senti légitime à investir dans de la tech à ce moment-là? Tu l'as fait pour ton pote ou tu l'as fait vraiment en y croyant?
Non, je l'ai fait vraiment en y croyant parce que justement, je connaissais son outil de travail. Je savais que peu importe ce qui se passait, au moins, il allait passer des journées à bosser et faire en sorte que ça marche. Et ça, c'était très important.
L'argent n'allait pas dormir.
Non, exactement. Je sais qu'il n'allait pas se reposer tant qu'il n'y a pas quelque chose qui marchait. Donc c'est la première raison qui m'a poussé à le faire et la deuxième aussi j'étais un peu pris par l'aventure, tu vois, c'est un monde auquel je commençais à m'intéresser. J'ai découvert un peu aux États-Unis quand je suis arrivé en NBA, beaucoup de joueurs investissent justement dans la tech, et j'ai commencé un peu à me prendre au jeu, à être curieux, et ça a coïncidé avec justement le début de cette boîte. Donc encore une fois, c'est fait assez naturellement et pas vraiment de calcul.
T'étais aux US à ce moment-là, toi?
Ouais, j'étais aux US.
Je juste comprendre un peu...
Enfin, je venais de rentrer des US.
Eux, c'était quoi le délire, entre guillemets, les sportifs qui investissent dans la tech, qui plus est aux US, c'est plus tôt, et puis j'ai l'impression que l'écosystème startup était plus structuré. T'en entendais parler, ouais, tes coéquipiers?
Ouais, bien sûr, bah, ça a commencé pas mal avec les Warriors à San Francisco. C'est un mouvement qui a été l'idée, je pense, par André Godala, qui est maintenant top VC, qui a son propre fonds, qui a bossé pour plusieurs fonds. Il y a LeBron James aussi qui a fait pas mal d'investissements qui ont bien marché, qui sont assez connus. Kobe Bryant aussi. Mm-hmm. Donc ouais, depuis, je dirais, ouais, 2014-2015, c'est vraiment trendy aux États-Unis. Et c'est un mouvement qui commence à arriver en Europe de plus en plus. Ouais.
Grâce à toi aussi. J'allais dire grâce à la culture ricaine, mais que tu nous rapportes. Bon, parlez-moi de Demos. Et je l'ai bien dit?
Tu l'as bien dit.
Qui pitch?
Ouais, je vais le pitcher. Demos, c'est un club d'investissement. Du coup, on investit dans des startups en early stage et spécifiquement dans les startups consumer. Donc, c'est des produits, des services que toi et moi, on peut utiliser tous les jours.
Et, tout aussi, ouais.
Et la raison pour laquelle on a monté ce club avec Axel, c'est que pendant notamment notre aventure avec X Technologies, moi, c'était ma première boîte. Et on faisait une boîte de gestion de données, très B2B. Mm. Et je me suis rendu compte assez tôt que le truc qui me passionnait le plus, c'était les boîtes consumer. Et donc, en plus de ça, Axel, lui, on se rendait compte que son impact, il avait beaucoup d'impact dans la boîte, il ouvrait son carnet d'adresses et il débloquait des situations, mais qu'il pouvait avoir encore plus d'impact sur des boîtes consumer. Et donc, on s'est dit, pourquoi on n'essaye pas de faire, un truc qui nous passionne, deux, un truc où on va être d'autant plus efficace, et trois, ce qu'on avait aussi derrière la tête, c'était d'aller sur des projets qui pouvaient potentiellement impacter des millions de personnes, et ça c'était quelque chose qui nous plaisait vraiment.
B2B, tu trouves que l'impact était plus limité?
Non, je pense pas que c'est plus limité, c'est qu'il est juste différent, et je pense qu'il est en effet beaucoup plus palpable sur le consumer. Et donc, en fait, on a commencé à investir dans les boîtes consumées ensemble. On a eu la chance de notamment rentrer au capital de startups en France qui ont super bien marché, comme Sorare et We The New. Et ensuite, on a capitalisé là-dessus en montant un club avec les gens de notre entourage. Donc, on est à peu près une trentaine de personnes. Et ce qui est bien, c'est qu'on a une diversité de profils qui nous ressemblent. On a beaucoup de gens qui sont des sportifs, des artistes, des influenceurs. On va avoir des entrepreneurs, des investisseurs professionnels qui bossent dans des fonds d'investissement en finance. Et en rassemblant toutes ces personnes, on a réussi à faire du coup un groupe de business angels qui rentre dans des boîtes directement. Et donc, ça fait à peu près 2-3 ans qu'on investit maintenant. On investit des tickets qui étaient assez modestes, de 10 à 50 000 euros. Et à ce jour, on a investi dans une quinzaine de boîtes à peu près.
Ok. En quel stade
Donc, en early stage, pre-seed jusqu'à de la série A.
Ok, d'accord. Bon, dédicace à David et Mike de We The New.
Exactement.
Et Nicolas, si tu nous écoutes, après mon peut-être 9 ou 10e email en 2 ans, peut-être que ça va le faire. Just saying, je lance la graine. Justement, ouais, Deimos et tous ces invests, c'est quoi l'intérêt, hormis l'intérêt pécunier? Pourquoi, et peut-être même toi, Axel, si tu veux en parler, c'est assez différent d'investir dans une boîte versus d'investir... Enfin, de gérer l'argent pour d'autres personnes et de proposer à d'autres personnes d'investir avec toi, quoi.
Ouais, bah moi, ce que je trouve incroyable dans ces invests, justement, c'est que ça te permet de connecter avec, comme tu le disais, des fondateurs. On a eu la chance de boîtes qui ont très bien marché. Moi, typiquement, ma rencontre avec Nicolas, et les discussions que j'ai eues avec lui, ça m'a ouvert beaucoup de perspectives. Ça a vraiment aiguisé ma vision et ça m'a rendu beaucoup plus confiant sur beaucoup de choses.
Vous l'avez rencontré avant, les 680 millions de SoftBank?
Ouais.
Ah ouais, ok. Non, parce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'il a quand même galéré à lever sur la place parisienne son seed et ensuite 700 millions américains.
Bah, c'est un entrepreneur assez
résilient.
Résilient, assez exceptionnel. Mais ouais, tu vois, ce côté un peu pouvoir connecter avec les fondateurs, je trouve ça incroyable. C'est souvent ce que je dis aussi à d'autres sportifs qui sont intéressés par le monde de la tech. Tu as l'aspect pécunier, comme tu dis, de l'investissement, mais tu as aussi tout le côté où tu vas apprendre. Où demain, si tu montes une boîte, tu vas pouvoir avoir des gens avec qui parler, qui vont pouvoir t'aider. Et ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais des fois, c'est mieux de faire ça que de se payer une formation.
Tu me parles d'humain, là, en fait.
Hein?
Tu parles d'humain.
Ouais, je parle d'humain, bien sûr.
Okay.
Et nous, les sportifs, c'est quelque chose sur lequel on est, qui est très important pour nous. Donc, c'est quelque chose que souvent je mets en avant et moi, quelque chose qui m'a énormément apporté.
Avant de rentrer, j'ai vraiment envie de comprendre. J'ai l'impression que c'est deux mondes qui se rejoignent, un monde très tech, un monde très sport. Mais bon, sport à la base quand même. Donc, il y a beaucoup de ponts. Et je te pose la question à toi, Axel. Et après, je te donne la parole, Étienne. Mais justement, c'est quoi l'entrepreneuriat? Et si tu peux me parler de ça, mais genre, il y a 10 ans, c'était quoi pour toi?
Il y a 10 ans, c'était quoi?
Ouais.
Alors, il y a 10 ans, je ne sais pas vraiment ce que c'était l'entrepreneuriat.
La vision que tu avais.
J'en faisais déjà, mais sans me rendre compte.
Okay.
Parce qu'au final, tu sais, quand tu es un joueur professionnel de basket, tu dois trouver ton agent, tu dois t'entraîner pendant l'été,
tu payes des impôts,
exactement. tu dois monter une petite team, souvent tu bosses avec des conseillers financiers.
Ouais.
Donc tu dois créer un petit écosystème qui va te permettre d'être performant sur le terrain. Et bah, ça, c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Après, le mot entrepreneuriat, je pense qu'il est devenu trendy un peu plus tard. Mais au début, ouais, j'en faisais sans pour autant mettre un mot dessus. Donc ouais, c'est ça mes premières expériences avec...
On t'aurait demandé à ce moment-là, t'es entrepreneur, t'aurais dit non ?
Je pense que j'aurais dit non, hein. Je pense que j'aurais dit non. Hein.
Donc du coup, tu te sentais pas légitime à ce moment-là ?
Non, c'est juste, je te dis, je
voyais pas exactement ce que c'était.
Et c'est un mot aussi, je pense, dont on parlait beaucoup moins, qui était beaucoup moins appliqué et connu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est d'entrepreneuriat. Tu vois, sortir de chez toi et faire quelque chose, c'est de l'entrepreneuriat. M'en laisse. Donc ouais, à l'époque, je t'aurais dit sûrement non.
C'est la question que j'allais te poser, Étienne. Mindset ou un job, un métier, l'entrepreneuriat?
Ouais, c'est plus un mindset. Pour moi, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment avoir la liberté de faire quelque chose qui a ton image. Et donc, c'est souvent une extension de ta personne aussi. Moi, personnellement, en tout cas, tous les business que j'ai montés jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais senti comme un métier vraiment. C'est plus l'activité que j'ai le plus envie de faire tous les jours. Donc non, beaucoup plus un mindset qu'un job et un métier dans ma tête, ça c'est clair.
Et ça vient avec des, j'allais dire, de la liberté, on parle beaucoup de ça, mais en vrai c'est énormément de responsabilité. je sais pas combien de personnes t'as embauché, même avec X.
On est monté jusqu'à 20 personnes avant que du coup je
avoir 20 personnes qui pitchent la boîte pour toi, enfin c'est des choses qui sont pas palpables, mais ouais, c'est quoi le plus grand kiff au quotidien dans l'entrepreneuriat, hormis donc là on enlève l'argent, que ça soit de la vente ou des millions levés. Est-ce qu'il y a un truc auprès, on parlait d'humains, des équipes, de l'aventure, bah vas-y, continue dedans Étienne.
Ouais, pour moi c'est 100% l'impact, parce que tu as le choix de choisir quel problème tu vas tacler et tu veux résoudre, avec quelle personne tu vas le faire, et quelle culture tu vas définir dans ta boîte pour que ça te corresponde le mieux dans la façon de travailler ou autre. Et ça clairement c'est hyper, hyper satisfaisant. Tu vois, typiquement, nous, on est monté jusqu'à 20 personnes. Plein d'entrepreneurs, ils montent jusqu'à des centaines, voire des milliers. Et en fait, de savoir que y a des gens qui viennent dans ton entreprise pour essayer d'aller ensemble résoudre la mission que vous vous êtes fixée, et qu'ensuite, ils vont nourrir leur famille, notamment avec le salaire qu'ils auraient versé. C'est un sentiment qui est dur à retranscrire à quelqu'un qui n'a jamais monté une entreprise.
Bien sûr.
Et oui, c'est hyper, hyper satisfaisant. Ouais.
C'est pas le même sentiment de gagner un titre. On est d'accord.
C'est pas le même, mais
pour c'est quoi les similités, les similarités, pardon.
Entre
entre gagner un titre qui est un aboutissement, tu vois, sharp, mais aussi vivre toute une aventure. Je sais pas si l'aboutissement c'est atteindre tant de ventes ou quoi.
Bah, je dirais, enfin c'est un mot que Étienne utilise souvent. Je dirais que bon, gagner un titre c'est beaucoup plus intense, mais tu vois une aventure entrepreneuriale c'est tout aussi cool. Mais c'est juste un peu moins intense et plus étalé sur le temps. Mais moi, pour répondre à ta question, je dirais que même c'est un mode de vie, en fait. C'est un lifestyle. Et moi, ce que j'adore, c'est vraiment tout l'aspect construire une communauté. Comme Étienne disait, un groupe de personnes qui va vers un but commun. Mais tu vois, construire un peu cette équipe, cette armée, c'est super cool. Moi c'est ça que j'adore, storytell, raconter une histoire avec des potes, avec un groupe.
Oh là là, on en a parlé avant, tu m'as dit si j'aimais le basket, je t'ai dit bah, j'aime bien mais je connais rien. Je sais que t'as joué deux postes, mais plus sérieusement, est-ce que tout sportif a ce mindset entrepreneur? On va même parler de la NBA, donc ça veut dire que t'es au max, au graal du haut niveau dans le basket. Est-ce que concrètement dans tes anciens coéquipiers, tous pourraient être entrepreneurs?
Je pense que oui, très sincèrement oui. Après, il y en a qui le veulent ou pas.
Que tu sois meneur ou que tu sois plus en défense ou peu importe.
Ouais, tu sais, arriver en NBA, déjà, c'est tellement dur en soi. C'est un peu comme, tu vois, fonder une startup qui va réussir. Les stats, c'est moins de 1%. Ça, ou zéro même.
Je pense que c'est une boîte pour 10 000 ou que ça se passe plutôt.
Ouais, bien. Je connais pas exactement, mais en moins d'un ou deux ans, c'est 50% qui crache, voire plus. Donc,
ouais. Donc tu vois, tout ce chemin, ça te construit vraiment en tant qu'homme, en tant que sportif, potentiellement en tant que businessman. Je pense qu'on acquiert énormément de soft skills qui sont, qu'on peut retranscrire dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc je pense que ouais, je dirais que tous les, enfin là tu parlais de la NBA par exemple, tous les joueurs NBA pourraient être des entrepreneurs. Après c'est une question de volonté, une question de vision, est-ce qu'ils ont envie de le faire ou pas, mais je pense que tout le monde a ce qu'il faut.
Et on pense à, je sais pas les noms, mais je sais qu'il y a des grands joueurs de basket qui sont retrouvés fauchés quelques années après pour mauvaise gestion, juste sur ça là, sur intellectualiser tous ces soft skills. Je crois que t'as 32 ans.
31.
Combien ?
31,
ouais, excuse-moi, je te dis. Mais t'as 2 ans de plus que moi, mais c'est vrai que j'ai 29, j'ai pas 30 encore. Voilà. Je dis, je me permets parce que c'est écrit sur Wikipédia, t'inquiète. Donc c'est bon. Étienne, on trahira pas ton âge, t'inquiète. Mais ouais, vous devez avoir le même âge.
Quelques mois de plus. Début d'année, quoi.
Oh, puis quand tu l'as dit au tout début.
C'est pas grave.
Bref, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire par... Oui, moi aussi, aujourd'hui, j'ai l'impression de plus prendre conscience de... presque de ma force, à titre perso, qui est à travers du podcast, qui est beaucoup plus soft skills. À quel moment t'as pris conscience de ça? Je sais que dès le départ, on vous répète, quand vous êtes des sportifs de haut niveau, peut-être même tu peux en parler, en attester quand vous étiez à Pau, que c'est ça, un Pau ensemble, que dès le départ, on vous dit presque même comme des mecs à 18 ans qui rentrent en prépa, où on leur dit « vous allez devenir l'élite, blablabla ». Bon, là, pareil, on vous dit « vous êtes peut-être deux dans la salle qui allez percer », ou peut-être même moins. Ouais, à quel moment tu commences à comprendre tout ça? Est-ce que c'est une fois que tu commences à rentrer dans le milieu du travail, que tu vois que les gens... j'allais dire c'est des teubés, mais non, je rigole, excuse-moi, mais c'est quand tu commences à te comparer aux gens, comment ça se passe? Parce qu'à l'école, tu l'apprends pas, ça.
Ouais, moi, c'est le déclic, ça a été quand je suis arrivé aux États-Unis. Donc, aller en NBA, ça a toujours été mon rêve. Et donc, mes années de formation, mes premières années pro à Strasbourg, je pensais, vivais que basket. C'était basket toute la journée. Je retournais à la salle le soir, le dimanche, la nuit, tout le temps. Et quand je suis arrivé en NBA et à Toronto, en fait, c'est comme si, tu vois, c'était un nouveau monde qui s'ouvrait devant moi, avec des joueurs qui investissaient, qui représentaient des marques, qui avaient des fondations, des associations. Et c'est là, en fait, où ouais, j'ai vraiment compris qu'il y avait quelque chose d'encore plus grand à faire.
Que juste le sport, en gros.
Que juste le ouais. sport, exactement. Qui reste quand même très important. Il faut toujours garder de maintain. Mais il y avait quand même beaucoup plus que ça. Et justement, quand j'ai commencé à m'y intéresser et creuser un peu plus, je voyais un petit peu la personnalité des joueurs, comment ils s'exprimaient, les équipes qui fondaient un peu autour d'eux. Mmh. Souvent, on parle d'entourage, de choses comme ça, mais il y a aussi des entourages qui sont très positifs. Mmh. Ça, on en parle assez peu.
On va en parler.
Et ouais, du coup, moi, c'est ça vraiment qui m'a fait me rendre compte que bah, moi aussi, j'avais ce qu'il fallait. Moi aussi, j'étais quelqu'un de curieux. Et c'est à partir de ce moment-là en fait que je me suis lancé un peu dans tout ce qui est off the court et plus largement entrepreneuriat.
Mais tu peux te dire à ce moment-là, je viens d'arriver, ça y est, je touche enfin la NBA, enfin ça y est quoi. Tu peux te dire oulala, je suis un petit quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait penser à un Benzema qui rentre à l'OL. Bon, moi je suis plus foot, mais qui dit dans les vestiaires, non, moi j'ai 17 ans, mais je suis 19 ans, et je suis là pour prendre votre place. En tant que titulaire, tu vois. Et ouais. c'est deux mindsets différents versus je rentre, je respecte les aînés, je dis rien.
Bah, sur le terrain, c'est une chose, mais en dehors, tu vois.
T'analyses en fait.
Ah ouais, avoir l'humilité, surtout moi en plus, qui en dehors des terrains, j'avais, à part je te dis, un investissement IMO quand j'étais jeune, j'avais rien fait quoi, et j'avais même pas forcément la vision en fait. Mm. Donc tout ce que je voyais, c'était nouveau, c'était enrichissant, c'était inspirant. Et ouais, ça a été un déclic vraiment net pour moi à ce moment-là.
Cher Étienne, j'ai une question pour toi. C'est vrai qu'Axel, il a beaucoup parlé là. En fait, j'y pensais hier soir, tu vois, et c'est drôle. Bon, j'y pense par rapport au foot. On parlait aussi de sport, le fait d'avoir tous ces mercato, de passer d'une équipe à l'autre. Toi, t'as embauché 20 personnes. Est-ce que t'estimes que c'était... je sais pas si c'est du staff ou des fans, mais en gros, est-ce que t'estimes qu'ils avaient un amour à... Est-ce que tu peux demander autant d'implication que vous en tant que cofondateur ou associé?
C'est une très bonne question. Et j'avoue qu'en tant qu'entrepreneur qui faisait sa première boîte, je pense que j'ai souvent été un fondateur qui attendait peut-être un peu trop de ses employés. Et avec le temps, en fait, t'es forcé de constater que les incentives ne sont pas les mêmes en fait. Bien quand tu es fondateur, bien entendu, tu as de l'actionnariat dans ta boîte.
Alors que lui, il vit sa carrière perso en gros.
Certains, en fait, ouais. Et certains employés, ils vont venir dans ton entreprise juste pour prendre leur salaire avant d'aller dans une autre boîte et c'est OK. Mais c'est vrai que c'est dur quand on donne autant de sa personne et comme je te disais, quand la boîte est un peu une extension de quitter, du problème que tu as envie de résoudre, etc. C'est dur à accepter, mais c'est comme ça. Et je pense qu'en effet, tu as une vraie ligne qui se trace entre les fondateurs, les premiers employés et les employés qui arrivent derrière.
Et tu ne peux pas réussir à embarquer des employés qui sont arrivés plus tard. C'est hyper dur, tu dirais.
Si, je pense que ça se fait. Forcément, l'actionnariat ou l'incentive n'est pas le même. Mais je pense que c'est une des grandes qualités chez les entrepreneurs qui sont exceptionnels, c'est d'être capable de... envoûter en fait les gens qui sont autour d'eux, que ce soit les collaborateurs, les investisseurs, les clients, pour les rallier à une même cause.
Ouais.
Mais je pense que tous les entrepreneurs essaient de faire ça. Ouais.
Oh, donc un entrepreneur, une boîte qui a réussi, tu dirais que c'est quelqu'un qui arrive à fédérer une équipe et qui plus est sur le long terme? Parce que quand je te parle de ça, c'est vraiment te dire qu'à la fin de la journée, on s'en fout de ton bonus, on s'en fout de ton salaire, mais quelqu'un qui a envie de rester et de faire l'extra mile, c'est parce qu'il a envie de faire du bien à une cause, un projet. C'est pas facile, ça.
Non, c'est hyper dur. Après, la réussite, je pense que malheureusement, pour une entreprise, elle est souvent définie par son bilan comptable et sa croissance et autres, etc. Mais c'est vrai que...
Ou son exit.
Mais d'un point de vue entrepreneur, en tout cas, c'est clairement une grosse satisfaction de se dire qu'on a réussi à ramener un groupe de personnes, peu importe la taille, à suivre son idée. C'est même limite un peu spirituel, pour être honnête, de quand tu as une idée, tu passes à quelque chose de concret où tu emploies des gens et tu dis, ah ouais, on est passé de j'étais dans mon canapé, je réfléchissais à X, Y, Z, et maintenant on a quelque chose qui est concret avec des gens qui viennent au bureau tous les jours. C'est un sentiment assez incroyable.
Si Étienne a joué le directeur de franchise ou le coach, je ne sais pas, et que toi tu joues un joueur, là dans la même question que j'ai posée, est-ce que tu penses, en plus ça fait plusieurs clubs, est-ce que tu penses qu'il y a une limite, notamment pour aller chercher un titre de NBA, etc., où... enfin, c'est ce qui fait la différence entre des grandes équipes et des bonnes équipes, c'est qu'il y a un moment, c'est plus palpable, mais tu arrives à embarquer des gens dans une sorte de passion. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être qu'elle est mal posée, la question.
Non, je vois ce que tu veux dire.
T'as été toujours passionné autant pour tous tes clubs ?
Ok, non, je vois ta question. moi, je trouve que ça, par rapport à ce que tu dis, ça relate un peu de la culture d'entreprise, en fait. Est-ce que ton leader est assez bon pour justement te faire ce extra mile ? Et du coup, non, pour répondre à ta question, sincèrement, la réponse, c'est non. Et tu vois, j'ai quelques exemples où ça a été fait, et même très bien fait, notamment en Lituanie, quand j'étais à Kaunas, et le coach était Sarūnas Jasikevičius, qui est un ancien top joueur européen, qui a gagné 3 fois l'Euroleague en tant que joueur, et qui est un leader incroyable. Donc souvent, si tu regardes ses vidéos, tu peux penser qu'il est fou parce qu'il crie, il est très actif, etc. Mais quand on était à Kaunas, on avait le plus petit budget d'Euroleague, avec une équipe sur laquelle personne ne misait en début d'année. Et ça a été très dur parce qu'il était très exigeant et très demandant. Mais au final, on est arrivé au Final Four d'Euroleague, on a fait une saison exceptionnelle. Et je pense que tous les gens qui venaient voir les matchs, ils voyaient que c'était même pas le extra mile qu'on faisait, c'est le extra 20, tu vois ce que je veux dire.
Okay.
Il fallait faire 20 km en plus, on les faisait sans réfléchir. Et lui, justement, il avait ses qualités de leadership qui étaient assez exceptionnelles.
Ça, c'est dû à un coach, une personne, ou ça peut être dû à une institution?
Je pense que ça peut être les deux.
J'ai le PSG en tête. Hein,
non, je pense que ça peut être
les deux. As-tu la solution, là?
Après, souvent, moi aussi, je suis fan du PSG.
Ouais, quand est-ce qu'on la gagne? Là, c'est elle. Là, c'est trop compliqué. Après, j'allais te parler de Neymar aussi, mais...
Ouais, après, je pense souvent l'institution, ça part à la base d'une personne ou un groupe de personnes. Mais clairement, oui, ça doit partir de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être l'institution, ça peut être un top joueur, ça peut être un coach. Tu vois, à Milwaukee, je pense que j'attribuerais beaucoup de cela à Giannis, par exemple.
Je vois, je te dis comme ça, mais je vois très bien. Parce que c'est les années où j'ai regardé les playoffs aussi.
Ouais, qui a ce mindset en fait qui détale sur toute l'équipe, que ça soit du deuxième meilleur joueur au 15e et même au kiné, au staff, à tout le monde. Donc ouais, non, je dirais que ça peut être assez différent. Ça peut être un coach, ça peut être un joueur, ça peut être une institution, comme tu l'as dit, un general manager.
Nasser, je crois que si tu veux embaucher deux petits gars qui pourraient coacher un petit peu cette équipe du PSG, just saying. Question pour toi, Étienne. Est-ce que le talent est plus fort que la passion ? Est-ce qu'on est un peu dedans, là ?
Est-ce que le talent est plus fort que la passion ?
Je pense que ça dépend de à quel niveau on se place. Si on parle de l'excellence et du plus haut niveau, clairement, c'est un mix des deux. Pour moi, maintenant, je pense qu'on va retrouver plus de gens qui ont forcé sur le travail versus sur le talent. Je pense que le niveau que Axel a côtoyé, notamment, très peu de joueurs survivent juste avec du talent. Et à un moment donné, il y a une exigence à avoir au niveau du rythme des entraînements, le nombre de matchs, la capacité à faire face à la pression qui est énorme, que ce soit dans les médias, avec les fans, etc. Et donc non, je pense qu'à haut niveau, clairement, le travail surpasse le talent, mais les plus grands sont toujours et talentueux et bosseurs.
Tu confirmes? Et tu dirais que t'as été pris d'une passion pour le basket plus que t'étais talentueux et t'as eu un gift pour ça?
Bah moi, j'en suis l'exemple même. C'est que tu vois, moi à 9 ans, je vois la finale NBA Lakers-Indiana. Je tombe amoureux de Kobe Bryant. Et à ce moment-là, en fait, je me dis, je vais jouer en NBA, en fait.
D'où les entraînements à 3h du mat, là, dont tu parlais?
Ouais, exactement. Ouais.
Regarde ces interviews.
Exactement. Et à ce moment-là, je me dis que je vais y aller. Et en gros, de mes 9 ans jusqu'à mes 18 ans, je suis loin de faire partie, tu vois, des top joueurs de ma génération. Enfin, Étienne peut en témoigner. Mmh. J'étais un bon joueur, mais je n'étais pas du tout le meilleur ou tu vois, ou en équipe de France jeune, ou etc. Et j'ai quand même réussi à y aller. En plus, en passant par la D-League, qui est la ligue un peu l'antichambre de la NBA. Donc, tu vois, la manière dont j'ai réussi à y aller, ça, c'est vraiment un testimonie justement de travailler dur et d'être résilient. Donc, moi, j'en suis l'exemple même. Et il y a aussi la quote, famous quote de Kevin Durant, qui dit « Hard works beat talents when talent fails ». Donc ça rejoint ce que tu dis, tu vois, je pense qu'avec du talent, quand tu as énormément de talent, tu peux performer, tu peux survivre, tu peux faire carrière, mais pour être au top du top et le numéro 1, bah là il y a pas de secret, tu vois.
C'est OK. Et de manière, c'est ce à quoi je pensais. Pour moi, le talent, c'est quelque chose, mais la passion te permettra de te surpasser et de continuer à faire du travail. Mini parenthèse, mon DG, est-ce que tu supportes le PSG, Étienne, ou est-ce qu'on te sort de ce podcast?
Non, j'avoue. En fait,
voilà, me dis pas.
Moi, j'étais fan de Ronaldinho quand j'étais plus jeune.
Ça marche aussi.
Il est parti au Barça et en fait, je regardais que le Barça et la Ligue 1 ne m'intéressait pas.
C'est un fan du Barça.
Mais maintenant que je
suis
à Paris,
le Barça Xavi, t'apprécies ou?
Écoute, c'est ça qui rend les bons supporters, c'est quand ils restent avec leur équipe, même dans les moments difficiles. Donc oui, j'apprécie aussi. Ouais.
Dans la mini parenthèse, et puis de manière, en tant qu'un fan de Barça, tu peux nous en parler aussi, mais un Neymar qui vient en plus du Barça, qui arrive au PSG, il y a des vidéos, des photos où il te montre 2017 versus aujourd'hui, même ne serait-ce que physiquement, sa métamorphose. On sait tous, hein, c'est un crack, il est talentueux. Mais il a manqué de travail ou d'ambition, c'est quoi en fait? On n'est personne pour, entre guillemets, juger le talent que c'est. Mais c'est le talent qui a primé sur la passion et l'ambition.
Bah, c'est compliqué.
C'est ton pote ou quoi?
Non, mais je veux dire, je le connais pas, je suis pas avec lui au quotidien, je sais pas ce qui s'est passé, donc c'est
Clarisse qui va m'engueuler.
C'est difficile d'en parler, surtout en tant que sportif, tu vois, on a quand même ce respect entre nous.
Bien sûr.
Quelque chose dont on parle aussi de plus en plus maintenant, mais dont on parlait pas avant. Enfin, il peut se passer beaucoup de choses dans la vie d'un sportif qui font que sur le terrain, il est moins performant. Ou même lors de ses entraînements, il est moins performant. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie.
Mais quand tu entends des mecs dire « il ne travaille pas, il ne fait rien », tu n'es pas d'accord du tout, on est d'accord.
Bah, je ne peux pas savoir, en fait.
C'est... Non, mais je me dis, d'un autre côté, tu ne peux pas arriver à ce niveau et pas travailler.
C'est clair. Bien sûr qu'il a travaillé. De un, il a un talent exceptionnel. Et bien sûr qu'il a travaillé. Après,
il aurait pu le polir un peu plus.
Who knows?
Who knows? Allez, it's a wrap. On termine cette parenthèse. Étienne. Et déjà, est-ce que tu es allé voir Axel jouer ou pas en NBA?
Ah oui. Ouais. Et j'ai eu la chance incroyable, notamment, de regarder en live le match où il a gagné son titre NBA. Et c'était la meilleure expérience sportive que j'ai
2021, donc Covid en plus, non?
Exactement.
Putain, incroyable. Tu es sur le terrain en train de faire des câlins
à
Axel.
Ouais. Exactement.
Incroyable. Question que j'ai jamais captée, c'est moi, sur la NBA. Pourquoi, c'est quoi votre délire à fumer des énormes cigares après avoir craché vos poumons? Tu l'as fait ou pas?
C'est quoi? Ouais, possible.
Alors, MJ l'a fait tout le temps.
Non, je pense que c'est pas Michael Jordan qui a vraiment rendu ça
lancé le truc.
Peut-être que c'est une tradition qu'il faisait, mais je pense que c'est vraiment Mike qui l'a rendu.
C'est pas très bon pour les poumons.
Connu. Non, mais bon, après avoir gagné notre NBA, tu peux bien t'accorder quelques jours de vice.
Ouais, je pense que tu fais tellement de sacrifices, en fait, que typiquement, quand t'atteins quelque chose comme ça, t'as envie de te laisser un peu aller. Et c'est peut-être un peu plus classe qu'être complètement alcoolisé en interview, par exemple.
Ouais, bien sûr. Et on en a vu aussi d'autres. Mais oui, je vois cette image de lui limite en train de pleurer avec son titre entre les bras. Et du coup, ma question était pour toi, Étienne. Il y a un truc que t'as vu chez eux, il y a un truc qui t'a marqué. Tu t'es dit, putain, faut que je chope ça dans mon quotidien, dans l'entrepreneuriat. Essayer d'aller voler un truc de sportif de haut niveau.
Ah, tu parles chez les grands sportifs?
Ouais. Et notamment à la NBA, qui, j'ai l'impression, est quand même particulier dans même tout l'univers basket, quoi.
Ouais, moi, personnellement, ça a été comme ça toute ma vie. Quand j'étais gamin, j'étais pas trop fan des jouets, des voitures, des trucs. Mais par contre, j'étais fan des personnes qui avaient énormément d'impact. Et chez le sport, c'est assez... tu le vois direct, hein, c'est très prenant, les personnes sont devant leur télé, tu fais rêver les gens. Et donc moi, c'était Michael Jordan, Tiger Woods, Kobe Bryant. Et les trucs qui m'inspiraient le plus, c'était ouais, la force de caractère, la résilience, la gagne, la capacité à être un leader pour ses coéquipiers.
C'est quoi, juste la, quand tu parles de force de caractère, c'est quoi un truc qu'on se permet sur un terrain, dans un vestiaire, qu'on ne ferait pas forcément chez X, dans une boîte avec 20 personnes?
Non, je pense que c'est des choses que tu te permets de faire aussi, même
okay,
dans
tu peux entreprise. Aussi le faire. Okay. Tu pourrais avoir une sorte de coach un peu taré, comme tu disais justement en Europe de l'Est, mais qui va te galvaniser aussi. En
et,
fait.
Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont comme ça. Il n'y a pas de secret. Et je pense que justement, la force de caractère, c'est être capable de dire les choses qui dérangent, c'est être capable de prendre des responsabilités quand c'est difficile. Et je pense que ce soit en tant que joueur de basket ou en tant qu'employé, on attend toujours ça de son leader, en fait, d'être là dans les moments importants. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me fascinait, la capacité des grands joueurs à prendre le dernier tir dans les dernières secondes, de galvaniser son équipe quand on est en train de perdre de 30 points ou qu'on a 2 buts de retard pour justement faire changer toute l'énergie du match. Ça, c'est des choses qui sont vraiment
Et d'y croire constamment.
Ouais, exactement.
J'ai l'impression. Il y a des moments où une saison, c'est long, quoi. Mm-hmm. Et des moments où tu n'y crois pas. Même si à la fin, même si tu es champion à la fin.
Y a des... Non, c'est pas où tu n'y crois pas, mais encore une fois, c'est une question d'intensité. C'est, tu ne peux pas non plus être... Tu vois,
tout le temps au high level. Ouais,
exactement.
Okay.
Tu ne peux pas non plus être à 1000% toute l'année. C'est juste impossible. Mm. Mais il faut, à partir du moment où tu baisses un peu en intensité, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, quoi.
Mais justement, belle intro, ce n'était pas prévu. On va parler de santé mentale. Enfin, l'intro n'était pas prévu, okay, mais le sujet est prévu. Santé mentale, et je vais justement revenir sur l'entourage après. Est-ce que vous deux, vous avez vu des psys?
Moi, quand j'ai commencé, j'avais travaillé un peu avec un coach mental. Après, moi, j'ai la chance d'avoir mon père qui était dans le milieu pendant forever,
qui était joueur, entraîneur.
Et après entraîneur. Et j'ai toujours beaucoup parlé avec lui, beaucoup parlé, beaucoup échangé. Donc ça permettait aussi de, tu vois, des fois vider mon sac et repartir du bon pied. Après, par la suite, non, j'ai pas forcément bossé avec de psy ou coach mental, mais je pense que c'est quelque chose qui est très bien.
T'en as pas ressenti le besoin par la suite, et même aujourd'hui dans ta nouvelle vie, tu joues encore en plus, donc
ouais.
D'ailleurs, j'allais te poser la question, mais la réponse, tu vas me dire, bon, je vais dire, comment tu fais pour compiler toutes ces casquettes en même temps, mais tu vas me dire, je fais.
Non, exactement. Après, je pense que c'est tu vois, encore une fois, il y a eu des moments où c'était pas forcément facile. Notamment quand j'étais en Grèce, ça faisait peut-être, tu vois, 2 ans que je m'étais un peu lancé dans toutes ces activités un peu extrasportives. Et c'est vrai que le switch mental, il n'était pas toujours facile à faire. Ça veut dire que je m'entraînais toujours autant. Mais des fois, quand j'arrivais à la salle ou que je commençais mon entraînement, je pensais au call que je venais de faire.
Bien sûr.
Et le soir, quand je faisais mes calls, je pensais au match de demain, tu vois.
C'est dur de prioriser, en gros, ou de focus.
Mais c'était plus mentalement, en fait, le fait de l'organiser. Après, je pense que c'est comme tout, ça vient avec le temps, ça vient avec l'expérience, avec la répétition. Et aujourd'hui, franchement, je veux dire que c'est seconde nature, quoi. Quand je suis à l'entraînement, je fais mon entraînement. Dès que j'ai fini l'entraînement, je fais ce qu'il y a à faire, que ce soit pour démos, pour mon programme.
Et ça colle à ta personnalité? T'aimes bien avoir plusieurs choses en même temps?
Ouais. Exactement. Okay. Moi, sur le terrain, je suis quelqu'un de très versatile, un peu couteau suisse. Je fais un peu tout.
Je gueule sur l'arbitre.
non, mais j'ai un jeu qui
tout
est
terrain.
J'ai un jeu qui est très complet. Je pense que ma personnalité aussi est assez complète. Comme je le disais, mon père, quand il a commencé à coacher, on a aussi beaucoup déménagé en France. Donc j'ai beaucoup bougé. J'ai cette faculté à m'adapter à plein d'environnements différents. Après, quand j'ai commencé à être pro, pareil, j'ai bougé un peu dans le monde entier. Donc, ouais, je dirais que ça fait vraiment partie de ma personnalité de faire beaucoup de choses en même temps et d'avoir la capacité de le faire.
Mais découvert au fil du temps, quoi. Pas intellectualisé dès le départ, quoi. C'est au fur et à mesure des expériences, t'as appris sur le tas et tu t'es dit, en fait, j'aime bien avoir tout ça en même temps.
Non, j'ai toujours, j'ai toujours fait beaucoup de choses, j'ai toujours aimé faire beaucoup de choses, mais les faire bien, ça, je pense que ça vient avec le temps et notamment mentalement, de pouvoir switcher... d'une chose à une autre, ça c'est un skill qui s'acquiert avec le temps, l'expérience et la répétition.
Et toi, Étienne, même question, mais savoir, est-ce que tu t'es entouré de personnes, de, je sais pas, c'est coach mental, si c'est psy, et si c'est pas le cas, est-ce que tu le feras à l'avenir?
Ouais, non, j'ai jamais consulté. Je pense que quand on était au centre de formation de basket, on a eu des gens qui nous suivaient quand on était adolescents. Et après, quand j'ai commencé dans ma carrière professionnelle, c'est quelque chose que j'ai jamais réfléchi, j'ai jamais eu accès. Et pour être honnête, de l'expérience que j'ai eue après avoir monté ma première boîte, c'est quelque chose que je pense que j'aurais pu utiliser, notamment dans les relations entre cofondateurs qui sont souvent quand même assez compliquées à gérer parce qu'on passe tellement de temps ensemble, l'intensité est hyper élevée, il y a beaucoup de choses en jeu. Et c'est vrai que en général, c'est des choses qui sont mises en place après les premiers gros tours de financement parce que c'est souvent considéré comme du nice to have plus que du must have. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu dommage, mais non, peut-être qu'à l'avenir, c'est quelque chose que j'aimerais bien utiliser. Ouais.
Et un peu dans tout ça, en fait, même moi, hein, plus je vous en parle, plus je comprends quel est le but de ma question. La gestion des émotions, qui est un truc hyper sous-côté selon moi, qu'on ne nous apprend pas à faire, sportif comme entrepreneur et sportif, façon, mais est-ce qu'il y a des trucs, même dans ta vie entrepreneuriale, toi, Étienne, où tu t'es dit, ah ouais, bah, typiquement, parler avec tes associés, je sais qu'il y a ce que tu veux dire, et puis il y a l'émotion que tu ressens à l'instant T, comment tu la retraduis, qui peut être mal prise, qui plus est par la personne en face de toi, comment elle l'interprète et comment elle l'associe à son vécu. Ouais, comment tu gères, c'est quoi les 2-3 conseils que tu aurais aimé t'adresser, toi, avant de monter X Technologies?
Non, pour être honnête, avec mes associés, discuter, c'était assez simple parce qu'on était sur les mêmes niveaux d'implication, de rythme, d'intensité. Ce qui était plus compliqué, pour être honnête, c'était plus l'espèce de barrière qu'il y a avec, du coup, les employés.
Okay.
Qui sont pas, du coup... Des fois, tu as l'impression que c'est pas vraiment le même bateau ou qu'on va pas à la même vitesse. Il y a une espèce de carapace que tu dois avoir en tant que, je pense, chef d'entreprise, qui est assez similaire d'ailleurs à une carapace que tu dois avoir en tant que coach de basket. Parce que y a beaucoup d'entreprises où on va te dire c'est une famille, mais non, c'est pas une famille parce que tu peux virer des gens. Et en fait, c'est plus comme une équipe d'ailleurs où c'est aussi beaucoup lié à la performance. Et donc, ça, c'est plus difficile à gérer, justement, parce que tu peux pas t'exprimer comme tu veux, parce que, par exemple, des fois, la performance n'est pas bonne et il faut, par exemple, virer quelqu'un. Et c'est des moments qui sont assez froids et assez... en général, que tu veux garder le plus succinct possible, parce que tu peux apprécier beaucoup une personne, mais tu sais que pour le bien de la boîte, il faut s'en séparer. Ça, c'est les choses, pour moi, les plus dures à gérer en tant qu'entrepreneur, d'un point de vue émotion, en tout cas.
Et tu le gères comment? Très pragmatiquement parlant, tu as déjà dû virer quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe derrière? Tu vas te détendre? Tu vas au ciné?
Ouais, pour être honnête, les premières fois, je pense que tu le fais mal parce que tu as envie de t'expliquer.
Un gros cigare.
T'as envie de trop parler, alors qu'au final, il faut que ce soit le plus simple possible et pas remuer le couteau dans la plaie.
Bien sûr.
Et donc c'est quelque chose qui est assez difficile au début, mais après, tu apprends à le faire. Et je pense qu'à la fin de la journée, même se faire virer pour quelqu'un, ça peut être aussi un bon signal pour se faire réorienter vers une direction où il va, où elle va soit repenser à sa façon de travailler, ou peut-être que c'était pas la bonne industrie, ou peut-être pas le bon type de boîte, pas le bon type de management. Au final, c'est vraiment un équilibre professionnel, c'est dur à trouver, donc ça peut être toutes ces raisons-là. Tu parlais de Neymar, par exemple, pourquoi il a pas performé au PSG, bon...
Il a encore pas performé.
Il a performé quand même.
Non mais c'est dingue. Mais...
Il aurait pu mieux performer. mais ça dépend de plein de critères. Et en fait, peut-être que la fin d'une aventure, c'est le début d'une autre qui te permet aussi de mieux t'épanouir et de faire des choses meilleures. Donc je pense que si tu vois, en tout cas, le fait de se séparer d'un collaborateur comme ça, c'est beaucoup plus simple à avaler déjà.
Ouais, non, mais je suis d'accord. Je sais qu'il y a plein de personnes qui voient ça, même te faire virer demain comme un truc de fou. Alors qu'il y a des gens, même un an plus tard, ils te disent « mais c'était le déclic, je le remercie tellement ». Enfin, t'as l'impression que c'est la fin de ta vie, mais c'est peut-être le début d'une nouvelle. Je sais pas si tu veux rebondir sur tout ce qu'on se dit, Axel.
Bah là, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai que, surtout en France, la culture de l'échec, elle n'est pas toujours très bien vue.
Je sais que c'est la question que j'allais te poser après sur l'échec. Mais je crois qu'on est trop connectés. Mais vas-y, continue.
Mais chose qui, et que moi, j'ai appris aux US notamment, enfin... Échouer, en fait, c'est une bonne chose, en fait. C'est même pas que c'est mieux vu, c'est une bonne chose, en fait. Plus t'as d'échecs, plus t'as d'expérience, plus tu montes ta résilience, plus tu montes ta faculté à pas abandonner. Et ça a vraiment de la valeur, tu vois.
C'est une bonne chose si tu continues.
Ouais, ce que j'ai, ouais. Ouais.
Le vrai échec, c'est de s'arrêter et de prendre ça pour...
C'est ça.
Granted et se dire...
Pareil, une quote qui est pas mal, c'est Nipsey Hussle qui a dit, en gros, « I just didn't quit ». C'est pour ça que j'ai réussi, parce qu'en gros, j'ai juste pas abandonné, en fait. Chose qui est vraie, en Europe, c'est un peu moins naturel pour nous de penser comme ça. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment une qualité que je leur attribue outre-Atlantique et
ouais.
ou même dans la mentalité anglo-saxonne qui est vraiment bonne à avoir, je pense.
Pour l'expliquer, moi, j'ai eu une invitée récemment qui m'a dit ça. Et elle se comprenait pas, elle me dit ouais non je veux pas d'échec ou je l'accueille, moi y a pas de souci. Je lui dis non mais attends, c'est pas aussi simple que ça la vie. Et elle me dit en fait l'échec à chaque fois, donc ok il y a un moment down et après je vais toujours analyser, non pas redouter de mes capacités mais revoir ma stratégie. C'est tout le temps ça, itérer. Voilà. Ouais, ça, ouais. Et en gros est-ce que c'est ça l'échec, c'est se dire que je suis pas arrivé à la finalité mais par contre je ne doute pas de mes capacités ou de et je remets pas en cause mon objectif quoi.
Mm-hmm. Ouais, je pense que c'est assez clair, hein. C'est ça.
Clara validé par Axel, grand plaisir.
Bien joué, Clara.
tiens, c'est drôle, j'avais cette question de peut-on se surpasser si on n'est pas pris d'émotion ou de passion pour une équipe. Mais je pense qu'on en a parlé un tout petit peu avant. Je voulais parler de l'équilibre vie pro-vie perso. Mm-hmm. Sur ou sous-côté ? Qu'est-ce que t'en penses, Étienne ?
Je pense qu'il n'y a pas une bonne réponse parce que je trouve que c'est hyper subjectif. Certaines personnes vont avoir besoin d'un équilibre par exemple pro avec famille ou autre chose perso qui est hyper balancé. Mm-hmm. D'autres personnes, et c'est le cas je pense de beaucoup d'entrepreneurs ou d'athlètes qui sont passionnés par ce qu'ils font, où ils vont être hyper absents sur certaines parties perso. Mm-hmm. Mais en fait ils le vivent pas comme une absence, c'est ce que je disais un peu plus tôt. En fait quand c'est une extension de ta personne et que t'as pas envie de faire d'autre chose que ça, au final, c'est une balance qui nous correspond, je m'inclus dans l'eau. Mais en tout cas, moi, en effet, de l'extérieur, on m'a beaucoup dit « Ah, tu devrais pas bosser autant ou t'as pas forcément une bonne balance, attention, tu vas burn-out, etc. » Mais moi, je me porte très bien parce que je suis très content dans ce que je fais. Donc,
tant que ça te procure du plaisir et que tu vois du sens, en gros.
Et juste comprendre que la balance, en fait, elle est différente pour les autres. Je pense que c'est ça qui est important. Mais est-ce que c'est surcoté, sous-côté Je sais pas, j'ai pas forcément.
Je sais pas, on en parle beaucoup, donc.
Mais je pense que c'est très important.
Pas, quand je bosse un dimanche, quoi.
Je pense que c'est clivant, et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. C'est okay. Parce que c'est différent pour tout le monde. Mm-hmm. Mais une fois que t'as compris ça, il faut juste que tu fasses le truc qui te correspond pour toi, en fait.
C'est comment aux US ? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Axel, déjà de la question ?
Bah, déjà, je pense que ce qu'il a dit, c'est textbook. Genre, je pense vraiment exactement la même chose. Après, aux US, non. Aux US, je pense qu'ils diront « do what's the best for you », tu vois ce que je veux dire. Et aussi, enfin...
Donc... On a peur en France, excuse-moi de t'interrompre, mais tellement on a peur, on se dit « ah, protège-toi avant de te lancer, il faut que tu fasses attention à ta santé mentale », alors qu'aux US, on se dit « all in », quoi.
Ouais, ils sont peut-être un peu plus fearless. Après, je pense que c'est aussi dans leur mentalité. Bah, mm-hmm. C'est le pays du capitalisme quand même, donc entreprendre, c'est un peu plus... naturel pour eux et tu vois on commence à en parler beaucoup plus jeune qu'en Europe. Après pour répondre à ta question, moi j'aurais tendance à dire que c'est un peu surcoté, mais je pense que la vraie réponse c'est que comme Étienne a dit c'est très subjectif, ça dépend de chacun et ça dépend de la personne que t'es, de ce que tu veux faire, de qui tu veux être, de là où tu veux aller. Donc je pense que la bonne réponse à dire c'est subjectif, ouais.
Donc apprendre à se connaître sur ou sous côté.
Ça, par contre, je pense que c'est le plus important.
Et je pense que c'est sous-côté, justement. Mm. Je pense que tu le disais en plus que tu avais appris beaucoup plus les dernières années, maintenant que tu as 22 ans, c'est ça ?
Ouais.
Je pense que...
Tu lâches les âges comme ça.
Ah, c'est ça.
Ah, tu l'as dit avant.
Tu l'as dit avant. J'aurais pas utilisé une information qui n'était pas déjà disponible. Mais non, je pense que le 25-30, en tout cas, moi, personnellement, c'est la période professionnelle où... J'ai le plus compris où étaient mes forces, mes faiblesses, et recalibré par rapport à ça, justement, pour optimiser.
Et c'est pour rebondir là-dessus, mais c'est dans l'incompréhension. Il y a des choses qui se passent, au début, moi, je ne comprends pas, ou même mes émotions, je ne les comprends pas. Mm-hmm. Et c'est au fur et à mesure, ou pareil, vivre un peu le rêve de tes parents, de te dire, fais une grande école et cette bonne carrière, et très vite, tu dis, oulala, ça ne va pas le faire en quelques jours. Bref, ce podcast n'est pas sur moi. Ouh, la grosse question. Est-ce que vous rêvez encore, les gars? Non, attendez, attendez. Avant de parler, ça, attendez. Ça, c'est les questions de fin. J'ai quand même envie. Déjà, Étienne, je le disais en intro, working on something new. Ça, c'est ta bio sur, sur LinkedIn.
Ouais.
On est d'accord, hein?
On est d'accord.
Voilà. Donc, ce que je disais pour faire la blague, mais toutes les personnes qui mettent ça, moi, j'ai envie de leur envoyer des DM et de savoir de, sur quoi ils bossent. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Et sachant qu'on a parlé de X, donc en commun avec vous deux, qu'ensuite, il y a eu Deimos. Qui est toujours vivant. What's next?
Alors, je peux pas tout dévoiler, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai eu la chance incroyable de avoir vécu une première aventure entrepreneuriale comme X Technologies, où c'était difficile au début, puis ensuite on a connu pas mal de succès. On a Google qui a investi dans notre boîte au bout de la deuxième année, on a levé une dizaine de millions d'euros. Et en fait, lors de cette première expérience, comme je le disais, j'ai été poussé à monter un club d'investissement comme Deimos, parce que j'avais un gros attrait sur les industries consumer. Mmh. Et en fait, c'est un attrait qui a fait que grandir avec le temps et qui m'a poussé vers la réflexion de potentiellement du coup sortir de l'opérationnel dans X Technologies l'année dernière pour me concentrer sur une nouvelle boîte. La seule chose que je peux dire, c'est que Axel est impliqué et que c'est dans l'industrie consumer qui nous passionne. Mais pour l'instant, je vais pas en dire plus. Mais c'est une continuité de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Notamment par rapport à Deimos où on a backé des boîtes consumer vraiment géniales. Mais voilà.
Il y a du sport dans ça ou pas?
Il y en a un peu.
Bah, toujours, ça fait un peu partie de notre DNA. Ça fait partie aussi des gens qui gravitent un peu autour de nous.
Ouais.
Après, c'est pas un focus sportif forcément, mais le sport, ça fait toujours un peu partie intégrale de qui on est, des gens qui sont autour de nous. Et...
Est-ce qu'on peut dire que la force, c'est le collectif ou pas dans ce que vous allez monter ou pas?
Ouais, 100%.
Je vais à la pioche à la pêche aux infos. Je voulais parler un petit peu de l'art de bien s'entourer. Je voulais aussi parler de l'art de retransmettre. Donc toi, t'as créé les prochains leaders en 2020, je crois, c'est ça? Juste avant le Covid?
Ouais, c'est juste après le Covid.
Juste après le Covid. C'est pas sur ça ma question, parce que ça touche bientôt à sa fin. En revanche, t'as parlé de ton papa, qui était entraîneur et basketteur. Je sais pas du tout s'il a eu une carrière aussi successful que la tienne.
Ouais, il a une très bonne carrière.
Ok, il allait en NBA aussi?
Non, à l'époque c'était beaucoup plus compliqué, mais en France il a eu une très bonne carrière.
Donc toi, t'as la bagouze dans la famille. Ok. Non, la question est toute simple. J'y pense parce que j'ai rencontré Lilian Thuram, donc ses enfants. Je ne les ai pas rencontrés, mais les deux jouent plutôt au niveau. Je pense à Zizou, qui est, je pense que je lâcherai pas un mot devant lui tellement je bégayerai. Okay. Et pour autant, il a 4 enfants et en a aucun qui a réellement percé à la hauteur des espérances du public. La question est simple. Hein. Je vois très bien qu'un papa, une maman peut te retransmettre cette passion, pareil avec les Mbappé, mais... c'est quoi qui fait la différence? Est-ce que tu peux expliquer que ton père t'a retransmis la passion du basket? Mais qu'est-ce qui a fait que toi, t'es arrivé à faire ta carrière aujourd'hui? C'est pas une finalité juste d'avoir un parent?
Non, clairement non. Ben, je pense que ce qu'il a très bien fait, en fait, c'est qu'il m'a laissé acquérir cette passion en fait, par moi-même. Et il n'a pas essayé de me forcer à l'avoir. Donc mon père, s'il faut savoir, c'est jusqu'à ce que j'ai 17 ans. Lui, le premier focus, c'était l'école. Le basket, c'était pas du tout une priorité. Et il voulait vraiment, en fait, voir que ça venait de moi, en fait. C'est ce que je voulais faire. Et à partir du moment, à 17-18 ans, où il a vu que je commençais vraiment à prendre ça sérieusement, que je m'entraînais, que je faisais mes extras tout seul, c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à plus s'impliquer. Mais du coup, en fait, ça a créé un peu ce feu en moi aussi de vouloir lui montrer que je faisais le bon choix, que c'est ce que je voulais faire, que c'était pas juste, tu vois, pour faire comme papa ou juste, tu vois, une lubie ou un truc que j'aimais faire avec mes potes.
Et t'avais pour ambition de faire mieux que lui ou pas du tout?
Non, je pensais pas du tout comme ça. Moi, je t'ai dit, 9 ans, je suis tombé sur... Bah, avec lui, d'ailleurs, on regardait les finales NBA, Lakers-Indiana, je suis tombé sur Kobe Bryant et j'ai dit... C'est là que je veux aller et c'est lui que je veux être, tu vois. Donc, non, je n'étais pas du tout en compétition avec mon père, pas du tout, non.
Et question chelou, mais tu as déjà rencontré son papa, Axel?
Ah oui, ouais. Plein de fois. Déjà, quand on était jeune et continuellement...
Plus jeune, je sais pas forcément la relation, mais comprendre, tu le voyais comment? Est-ce que tu étais presque jaloux que lui ait un papa qui vienne de ce milieu, quoi?
Alors, c'était particulier parce que, du coup, à l'époque...
T'avais pas le droit de venir chez lui. Non, basket, anti-basket.
Le papa d'Axel, en fait, c'était le coach de l'équipe pro et nous, on était au centre de formation.
Mais non.
Donc, c'était une dynamique assez particulière. Mais après, le père d'Axel, ça a toujours été l'autorité, en fait.
Ok.
C'était, il faut se tenir à carreau, il faut aller en cours, avoir des bonnes notes. Et en vrai, nous, quand on allait en cours, c'était plus pour se marrer qu'autre chose. Donc non, le père d'Axel, c'était l'autorité. Et ça l'est en vrai toujours.
J'allais dire, tu le revois aujourd'hui, vous restez les petits bambinos de.
Ah, c'est un peu ça, c'est un peu ça.
Tellement drôle. Bon, là, on arrive aux dernières questions. Question toute simple, est-ce que vous rêvez encore? Est-ce que vous avez des rêves que vous n'avez pas réalisés encore?
Rêver, oui, bien sûr. Bah, je pense que c'est. Moi, en plus, je suis quelqu'un d'assez créatif. Donc, tu vois, c'est tout con, mais quand je vais me coucher et que je. Pense à X, Y, Z, ça m'aide à visualiser. Après, mes rêves, en vrai, seraient de tu vois, continuer à faire ce que je fais aujourd'hui, mais à une plus grande échelle.
Okay.
Continuer à, tu vois ce que je disais avant, moi, dans mon parcours, je suis un peu le testimony du mec à qui on a dit « ça ne va pas être possible ». Et au final, j'ai montré que c'est possible. Même, tu vois, dans les choses que je fais un peu en dehors de terrain, souvent, on dit mais comment tu trouves le temps, ou enfin normalement tu dois être en train de jouer, comment tu arrives à faire les deux? Donc moi, c'est un peu en fait inspirer et encourager les gens à se dire que bah, tout est possible à partir du moment où tu te donnes les moyens.
Il n'y a pas de limite, il n'y en a aucune?
Non, moi je pense qu'il n'y en a pas, non. Je pense qu'il n'y en a pas, et je pense qu'il y a assez d'histoires et d'exemples sur cette terre qui nous montrent que, enfin, des choses qui étaient totalement imprévues et, et que personne n'avait envisagé, qui sont passées. Donc non, se mettre des limites, je pense que ça sert à rien. Après, il faut être réaliste, je pense que ça, c'est important. Il faut se donner les moyens, il faut travailler, il faut être curieux, il faut s'éduquer. Il y a plein de choses à faire pour que ça marche. Mais se mettre des limites, non, je pense pas que ça soit, enfin, qu'il fasse le faire.
Et t'es ambitieux? Vous posez la question à vous deux, vous considérez comme des gars ambitieux?
Ouais.
Ouais. Ok. Je pense à une musique. Il dit "Reach for the stars, so if you fall, you land on a cloud."
Oh, in the stars. Ouais. Ouais.
Ah voilà. Et je te pose la question, Étienne. Quel est ton rêve aujourd'hui?
Alors, des rêves, j'en ai pas mal. Il y en a qui sont très gros, et comme je suis une personne qui aime bien quantifier, en plus, j'essaie de me mettre des objectifs. Ils sont assez perso, donc je vais pas les donner dans le podcast là. Mais non, je rêve beaucoup. Je pense que à partir du moment où tu essaies de monter des boîtes, surtout qu'en plus, quand tu es dans l'écosystème startup tech, tu as besoin d'avoir une grande vision, en fait, pour galvaniser les gens qui vont être autour de toi et te dire que tu vas essayer de faire un truc qui est techniquement quasiment impossible. Donc non, rêver, c'est hyper important. Et je pense que d'ailleurs, c'est l'absence de cette capacité à rêver qui, moi, je m'en souviens quand j'étais employé, typiquement. J'ai eu une carrière en banque avant de monter du coup X. Moi, c'est le truc qui m'a tué. C'était vraiment de me dire, je ne peux pas rêver en fait d'un grand idéal ou d'une carrière incroyable ou extraordinaire. Et donc, je ne peux pas être ici, en fait. Et c'était un sentiment peut-être addictif que j'avais, notamment dans le sport, de se dire, tu peux aller en NBA, tu peux faire les Jeux Olympiques, tu peux faire ces trucs-là. Et en fait, même si c'est un tout petit pourcentage de chance, je pense que tu as besoin de savoir qu'il existe.
Et c'était quoi la limite, le fait que tu sois en CDI à l'époque, tu te dis que tu n'as pas une emprise à 100% sur ton avenir?
Ouais, je pense. Moi, personnellement, en tout cas, je travaille dans un environnement de banque privée. Mm. Je suis rentré par la petite porte, j'ai gravi les échelons sur mes 2-3 premières années. Et en fait, je suis arrivé au grade un peu le plus haut en tant que banquier privé au bout de la troisième année, peut-être. Et en fait, tout ce qui restait au-dessus, c'était soit tu montes ta banque, soit tu deviens CEO de la banque, et ça va prendre 15, 20, 30 ans. Et c'était pas très palpable, en fait. Et donc, je pense que tu rêves beaucoup plus, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, ça c'est sûr et certain. Et ça me parlait beaucoup plus.
Continuons de rêver. Question du tac au tac, c'est parti. Tac au tac. J'espère tac au tac. Que vous aurez des réponses au tac. Ok. Le conseil le plus sous-coté pour entreprendre, Axel?
Le conseil le plus sous-coté pour entreprendre.
Le plus universel pour toi?
Alors, le plus sous-coté. Alors, moi, c'est un coach qui m'a dit ça à l'époque. Il m'a dit, en gros, Axel, genre, il m'a dit, en anglais, il m'a dit, you can be right or you can be smart. Et en fait, trop souvent, on perd du temps et de l'énergie à vouloir prouver qu'on a raison. Alors qu'en fait, la meilleure chose à faire, c'est juste être smart et have a, you know, see the bigger picture. Mm-hmm. Et tu vois, que ce soit beauté en touche ou arrondir les angles, c'est mieux que, tu vois, vouloir potentiellement burn a bridge à vouloir montrer qu'on a absolument raison. Donc ça, je dirais que c'est...
pas le c'est montrer côté. Et le faire.
Exactement.
And you, Etienne?
In English, please. Je vois qu'on part sur l'anglicisme. donc ouais, fail fast, clairement. Je pense que le plus vite, en fait, on va à la confrontation, que ce soit avec des clients, pour avoir des feedbacks de tes utilisateurs, avec tes investisseurs pour prendre des noms, avec des gens que tu as peut-être envie de recruter, etc. Il ne faut juste pas tourner autour du pot. Et souvent, d'ailleurs, c'est, en tant qu'entrepreneur, sortir un produit, un service, un projet, même s'il n'est pas encore prêt, le sortir le plus vite possible. Et donc, se mettre en position d'être face à une confrontation où on peut avoir un non ou une réponse négative le plus vite possible.
Tu t'embrasses l'idée de se mettre à découvert, de prendre des risques, de
te mettre
au devant de la scène.
C'est pas facile au début, parce que c'est dur de se libérer de l'opinion des autres et de ce que les gens pensent de toi. Mais en fait, ça a tellement aucun impact qu'il faut juste, je pense, se mettre à découvert le plus vite possible pour progresser, en fait, tout simplement.
Axel, qu'est-ce que tu voudrais qu'il soit écrit sur ta pierre tombale?
Ce que je disais avant, en fait, qu'on se souvienne de moi comme tu vois, le gars qui a fait ce qu'on a dit qu'il pouvait pas faire.
Ok. Et toi, Etienne?
Moi je dirais quelqu'un qui a impacté la vie de millions de personnes par son activité quotidienne.
C'est important pour vous deux de laisser une trace de votre passage sur Terre?
Moi, je pense que c'est important, mais ce n'est pas non plus obsessionnel. Tu vois, je l'ai dit plusieurs fois dans l'interview, mais moi, tout ce que je fais, c'est, je le fais de manière très naturelle. Ce n'est pas vraiment calculé. Donc, tu vois, l'obsession de vouloir laisser une trace ou, je dis une bêtise, mais un immeuble ou un terrain ou quelque chose, ce n'est pas forcément quelque chose qui m'obsède. Okay. J'essaie de faire les choses de manière naturelle et je vois que ça aide les gens et c'est ça qui me...
Je veux pas un gros terrain
qui me fait plaisir. Ouais, exactement.
On avait la ref. Ok. Sur une échelle de 1 à 10, les gars, à quel point vous êtes heureux? Toi en premier, Etienne.
Moi, je suis assez proche du 10, hein, pour être honnête.
Ok. Et toi, Axel?
8.
8?
8, hein.
Ok. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous êtes riche?
Attends, assez okay. Proche du 10 aussi, si on pense à l'échelle du monde et...
Ça veut dire quoi, riche?
Je retourne la question.
C'est toi qui m'as posé la question.
Ah bah ouais, mais c'est vous.
C'est
qui
riche
voyez.
Purement financier ou c'est...
Je sais pas, mais les deux sont corrélés souvent.
Ouais, bon, je dirais 8 aussi.
Ok. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job a du sens au quotidien? À quel point ce que tu fais d'un point de vue professionnel a du sens au quotidien?
Moi, je dirais 10.
Je dirais 10 first.
Enfin, je dirais 9, pardon, 9, comme ça, on laisse toujours.
Moi, je vais rester sur mon 10, hein, pour être honnête, hyper aligné avec ce que je fais en ce moment.
Ok. Et la dernière question, promis, cette fois, c'est la dernière des dernières. Si vous n'étiez pas entrepreneur, sportif, investisseur, whatever, aujourd'hui, qu'est-ce que vous seriez? Qu'est-ce que vous feriez?
Moi, je serais golfeur.
Ouais, donc dans le sport, quoi.
Ah, t'as dit pas sportif,
okay. Non, non, mais tu vas.
Après, pas sportif, pas entrepreneur, bon, ça laisse pas beaucoup de...
Ok, non, mais golfeur, je prends. Okay.
Je serais golfeur, ouais.
Donc, t'as une petite passion pour le golf, quand même.
Ouais, grosse passion, grosse passion.
Et talent ou pas?
Talent.
Ah, non. Et toi, Etienne?
Moi, la réponse naturelle, ça aurait été de dire champion NBA, mais bon, je vais sortir un autre truc. Non, je pense acteur. J'adore le cinéma et je pense que c'est un truc qui m'aurait vraiment plu, hein, de tenter.
T'as dit que tu voulais pas donner tes rêves de gosse.
Ah, écoute, c'est...
Il n'y a qu'un pas, j'ai remarqué qu'à partir du moment où
c'était la dernière
question. Extraordinaire. Voilà. Bon, un grand merci, messieurs. J'espère que vous avez pris du plaisir.
Merci
j'ai
à toi.
Beaucoup merci
de plaisir
à, reçu.
À découvrir vos vies. Hâte de voir le Something New coming up. C'est pour quand qu'on aura les news?
Dans quelques mois.
Ok, bon, j'arrête ici. Et puis, je dis un grand merde à tous ceux qui nous écoutent. Force et honneur, et voilà, ça va. Ça... Et ne voyez pas l'échec, remettez en cause votre stratégie, mais jamais vos capacités.
Magnifique.
Mic drop. Allez, Mike à drop. Très vite.
Merci beaucoup, Yacine.
Pour un nouvel épisode.
Ciao.
Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao.